Bonjour à tous. C'est une joie de nouveau de pouvoir vous partager la parole de Dieu et tout en vous adressant la grâce et la paix de notre Seigneur à chacun d'entre nous tous ici présents. Alors, comme nous savons, avec notre sous-thème de ce second trimestre, vivre dans la dépendance de Dieu et qui touche doucement à sa fin. Et avec le Notre Père comme verset de base du thème de l'année, le sous-thème du second trimestre est tiré du verset 11 qui dit ceci: « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». En fait, le Notre Père, que l'on appelle aussi communément prière dominicale, est beaucoup cité, récité dans beaucoup d'églises. Et le Seigneur l'a donné à ses disciples comme un modèle de prière. Et de là, nous pouvons nous en inspirer pour notre prière quotidienne. Parce qu'elle est vraiment complète, cette prière. Même c'est un modèle. D'où d'ailleurs le thème général aussi choisi par les anciens à partir de ce verset et qui dit « Dieu notre essentiel ». Ça veut dire « Dieu notre Père, il est tout pour nous aussi ». Pareil pour le Notre Père aussi. Et vous voyez, il commence et termine par l'exaltation du Père. Malgré sa suprématie, sa divinité, sa souveraineté, il est notre Père comme notre Papa, celui qui prend soin de nous. Et il se trouve qu'au beau milieu de cette prière, voilà des domaines qui touchent notre vie, nous les humains. Et cela commence par notre besoin primordial, ça veut dire la nourriture. Et puis notre relation avec notre prochain, dans laquelle Dieu veut que nous soyons toujours en bon terme, ce sera le prochain sous-thème aussi, ça veut dire, pour qu'il y ait toujours un bon terme, il va falloir appliquer le pardon. Et enfin, comme enfant de Dieu, nous avons un ennemi qui n'est pas tendre et qui n'a qu'un seul but, c'est de nous faire tomber. Et là aussi, il y a une prière face à la tentation. Ça veut dire pour demander le secours divin afin qu'il vienne à notre aide. Alors, dans l'ensemble de cette prière, nous pouvons dire que Dieu n'est pas simplement majestueux, il est saint, mais il est aussi personnel et plein d'amour. Et il est tout pour nous aussi. Le Dieu trois fois saint, incomparable, il prend soin de nous, il pourvoit nos besoins, mais aussi il nous protège face à l'ennemi. Alors, je me suis dit, mais n'est-ce pas merveilleux tout cela? Le Dieu devant qui nous nous tenons chaque jour dans notre vie, et surtout en étant rassemblés ici dimanche matin. Avec le sous-thème « Vivre dans la dépendance de Dieu », cela sous-entend que, du fond de notre cœur, nous devons nous dépendre totalement de Dieu, dans notre vie de tous les jours. Et cette dépendance s'adresse à tous sans exception, qu'en soit des grands hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, comme c'était le cas avec Abraham, Moïse, Déborah, David, Esther, ou d'un simple croyant aussi. Nous sommes tous appelés à nous dépendre de Dieu dans notre vie. Et on voit cela dans toute la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et je dirais même de nos jours aussi, on voit toujours, et nous en sommes les exemples de cela, qui dépendent de Dieu chaque jour. Il faut dire qu'en ce temps-là, Abraham n'avait pas de GPS en quittant Haran pour aller dans les pays que Dieu lui avait demandé de s'y rendre et qui n'était quand même pas la porte d'à côté. Pareil aussi pour Moïse en quittant l'Égypte avec tout le peuple pour se rendre vers la terre promise. Trimballer tout un peuple dans les déserts, y compris les femmes et les enfants, ce n'est pas chose facile. Et ces deux périples n'étaient pas une mince affaire ni une partie de plaisir. Aller dans un endroit dont on n'avait même pas fait une visite au préalable, c'est un peu hasardeux, risqué même, mais ils ont obéi et pour réussir, ils devaient mettre leur confiance en Dieu et c'est ce qu'ils ont fait. De même avec David aussi face à Goliath. Humainement parlant, nous pouvons dire, mais c'est tellement osé ce qu'il tentait de faire ici. Et voilà justement ce que dit Saül à son endroit. « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Tu es un enfant. Voilà David qui se présentait devant Saül. Et lui, il est un homme de guerre. Nous voyons là la comparaison de Saül. Terrifiant, mais honnêtement, c'est juste. Goliath était un habitué de la guerre, à la guerre, dès sa jeunesse. Qui sait même si les armées n'étaient pas déjà déjouées pour lui dès son enfance, dans sa jeunesse? C'est un peu comme l'équivalent d'Obélix qui était tombé dans la marmite en étant petit, peut-être. Mais Goliath aussi, il était baigné dans cette ambiance, dans cet environnement de combat depuis toujours. D'où la crainte de Saül en tant que roi et puis parent responsable, il avait eu peur. Et dans ce duel, on compare toujours le petit et le géant. Mais David avait aussi un plus. Comme il a Élec plus, il a Protecteur plus. Dès sa tendre enfance, il dépendait de Dieu dans son travail en tant que berger. Ça veut dire qu'il baignait aussi dans cette ambiance vraiment de vie en étant dépendant de Dieu. Souvenons-nous dans ses actions face aux prédateurs des brebis, avec les lions et les ours. Ça, ce n'est pas des animaux gentils. Hein? D'où sa confiance absolue qu'aucun soldat n'avait. Il y avait son audace, son courage qui vont faire face à Goliath, puisqu'il savait en ce qu'il dépendait. Ce n'est pas en ses armures ou ses frontes. Il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Voilà ce qu'a osé dire David. Dans notre jargon de tous les jours, on pourrait dire, mais t'as le culot de dire ça. Mais vraiment, David est confiant parce qu'il dépendait vraiment de son Dieu. Au travers de ces quelques personnages, nous voyons dans leur vie la confiance en Dieu. Une confiance absolue, une dépendance totale à l'Éternel dans tous leurs agissements, quelle que soit la situation. Et par la suite, disons plutôt le résultat, eh bien, Dieu manifeste sa gloire. Alors aujourd'hui, nous allons méditer un passage dans l'Ancien Testament où l'on voit se manifester cette dépendance dans la vie d'une croyante et on voit comment elle a été conduite, sûrement sous la direction de l'Esprit de Dieu, parce que l'issue de l'histoire est vraiment heureuse. Vous imaginez déjà peut-être de qui je vais parler, mais nous allons lire le 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et il dit ceci, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Nous connaissons trop bien cette histoire de la veuve avec ses deux fils. Une triste histoire vraiment et qui se trouvait dans cette situation très critique, vraiment difficile, un problème insurmontable. Ça montre déjà qu'en ce temps-là, il y avait aussi des abus dans ce temps-là et même de nos jours face aux veuves, aux orphelins. Et cette femme n'avait pas échappé à cela. Cela nous donne un petit peu une facette du regard de l'homme face aux veuves et aux orphelins. Mais Dieu a un autre regard aussi envers eux, comme le dit le psalmiste. Il dit, Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, 6. Avec l'épreuve qu'ils endurent, ce sont l'avenir des fils qui sont en jeu, mais aussi le pain quotidien à manger, de quoi mettre sous la dent aujourd'hui, et n'en parlons plus de demain. Déjà avec la dette, il n'y a plus de quoi s'acheter du pain, se nourrir. Tout s'accumule, et c'est vraiment triste, le décès du mari, le créancier, et de quoi pour le lendemain. Alors je vais diviser ce message en deux parties. Dans un premier temps, nous allons approfondir, méditer un peu plus le verset du sous-thème, et en deuxième lieu, nous allons prendre l'exemple de cette femme courageuse. Mais revenons au sous-thème du premier, du second semestre, du second trimestre. C'est le premier point qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » On peut se poser la question face à ce verset. Pourquoi Jésus a cité cette prière dans le Notre Père, le pain quotidien? Pourquoi le demander à Dieu ? Est-ce qu'il ne suffit pas que toutes les femmes préparent une pâte et en fassent du pain pour leurs besoins et tout est réglé? Pourquoi demander? Et de nos jours, est-ce qu'il ne suffit pas d'aller chez le boulanger et en acheter tout ce qu'on veut? Ou bien aussi pour manger, ben il suffit d'ouvrir le frigo et on est dans l'embarras du choix. Il suffit aussi que je porte la cuillère dans ma bouche et je peux apaiser ma faim. Et encore mieux, on peut aussi téléphoner au boulanger et le livreur arrive dans les plus brefs délais. Alors pourquoi cette prière, ce modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré? Il faut dire que pour les non-croyants, ils peuvent se moquer des chrétiens qui saisissent cette prière afin de montrer leur dépendance à Dieu, que pour eux, c'est des balivernes, c'est de l'utopie. Demandez à Dieu, donne-nous notre pain, alors qu'on peut tout savoir sans bouger. C'est vrai, cette prière est devenue comme une récitation inclue dans la liturgie, mais elle vaut bien plus que cela, cette prière. Jésus veut nous montrer par là que tout nous vient de Dieu. Notre besoin quotidien, notre protection, l'air que nous respirons, tout vient de Dieu. Et même cette prière nous conduit aussi à y exalter, à louer notre Dieu. Comme je l'ai dit, que ce soit au début, à la fin aussi, on exalte Dieu. Dieu ne cesse de penser à nous, les humains, y compris ceux qui ne veulent rien entendre de lui. Qu'ils le veuillent ou non, ces gens-là, ils jouissent encore pour le moment de la bonté de Dieu. Dieu leur donne encore aussi le souffle de vie tout au long de leur journée et soirée. De la bouche de Jésus, lui-même, nous entendons cette parole. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 43, 45. Voilà ce que bénéficie encore toute l'humanité. Mais même avant, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit avec clarté aussi, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et à la vendange atteindrez les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. » Lévitique 26, 3 à 6. Ça montre que Dieu s'occupe de nous tous. Voilà ce que Dieu fait pour toute l'humanité entière. Mais s'il y a des changements climatiques, ce n'est autre qu'à cause de l'homme lui-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. On voit comment tout se dégrade de manière fulgurante autour de nous parce que l'homme n'a pas su gérer comme il faut l'univers. Il a failli dans bien des domaines de l'intendance. Mais pour revenir au verset du sous-thème, j'aimerais nous faire revenir un peu en arrière avec l'histoire du peuple de Dieu, ça veut dire Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert. C'était tellement grandiose la sortie d'Égypte, libérée de l'esclavage, terrible. Mais voilà, c'est triste, mais c'est vite oublié tout cela une fois dans le désert. Que de murmures de la part du peuple. Et pourtant, en ligne de mire, il y a la terre promise que Dieu avait promis à Abraham et à tous aux patriarches, et qu'ils vont pouvoir en bénéficier. Alors voilà un échantillon de leur murmure, leur colère vis-à-vis de Moïse et Aaron, et qui n'est autre qu'un murmure aussi contre Dieu, leur libérateur. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de vin ?» Pot de viande, pardon, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Exode 16, 2 à 3. Mais moi, je me suis dit, c'est dur à avaler d'entendre ça. Avec toute la bonne volonté qu'ils ont donnée, voilà ce qu'ils reçoivent en retour comme récompense. Quelle ingratitude! Mettons-nous à leur place. Vous vous donnez tellement pour une bonne cause et voilà ce que vous recevez comme reconnaissance. C'est dur à entendre et peut entraîner logiquement aussi le découragement. paraît aussi quand la soif les tenaillait dans Exode 17, verset 3. Mais comme Dieu aime son peuple et que ce peuple l'avait choisi parmi tous les peuples, il va entrer en scène pour résoudre ce problème. C'est crucial vraiment pour la suite de leur périple. Et voici ce qu'il dit à Moïse. Et là, ça va être le grand moyen vraiment. Attachez vos ceintures, ouvrez vos parapluies. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des ciels. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des ciels. Une fois seulement, jour par jour. Exode 16, 4. Quelle solution radicale de la part de Dieu. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain. Et on peut se poser la question, mais d'où viendra alors cette pluie de pain? Est-ce que Dieu avait mobilisé toutes les femmes israélites? Non. Et même si c'était le cas, cela n'aurait pas suffi pour nourrir tout ce peuple. Et puis on aurait passé du temps aussi pour la préparation, puisqu'il fallait marcher toujours sans arrêt. Est-ce alors toutes les boulangeries célestes qui s'étaient mises au service de Dieu pour faire face à ce besoin? Et c'est quand même énorme, 600 000 hommes sans les enfants, sûrement sans les femmes aussi, à nourrir tous les jours. Imaginez dans les grands hôtels, ben ils préparent peut-être 2-3 000 plats par jour, mais ici 600 000. Oui, Dieu a utilisé le grand moyen dont il seul, lui seul, avait le secret, puisqu'il est Dieu. Mais ce n'est pas tout, Moïse rajoute, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. » Exode 16-8. C'est vraiment un repas complet que Dieu donne au peuple. Il manque juste le dessert et le café après. Et d'où viennent aussi la viande alors? Les cailles. Même si les Israélites étaient des bergers, la viande des cheptels n'aurait pas suffi. Mais de nouveau, de manière miraculeuse, Dieu manifeste sa grandeur. Tout cela pour dire que c'est Dieu en personne qui va prendre en main la situation pour répondre aux besoins du peuple, en se servant de ses serviteurs Aaron et Moïse. Il n'est pas Dieu pour rien. La Bible ne dit-elle pas « Rien n'est impossible à Dieu » Luc 1, 37. Et ce n'est pas tout. Dans Luc 18, 26 à 27, qui parle du jeune homme riche et qui était à deux doigts du salut, ceux qui l'écoutaient dire « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dieu seul peut faire ce qui est au-delà de l'intelligence humaine. Souvenons-nous du temps de Jésus avec la multiplication des pains à deux reprises. Eh bien, ce sont des miracles vraiment qui montrent la grandeur de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nourrir 5 000 et 4 000 hommes n'est pas chose facile. Et que peut faire 5 pains et 2 poissons? Ou bien les 7 pains et quelques poissons face à cela? Mais c'est énorme et puis c'est petit. Voilà la comparaison, le contraste. Mais c'est dans sa parole adressée au Père que tout va se jouer le miracle. Avec cette parole créatrice, comme c'était le cas au début de la Bible avec la création. C'est cette parole aussi qui a été à l'origine de toute chose. Revenons un peu au peuple d'Israël. Lorsque Moïse était face à la nouvelle génération, ça veut dire tout ce qui était déjà décédé, voilà la nouvelle génération, qui n'ont pas connu l'esclavage, ils étaient à la porte de la terre promise. Et voilà ce que Moïse leur dit. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8, 2 à 3. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, ce verset qui a été repris par notre Seigneur Jésus-Christ lors de la tentation dans les déserts. Au cours de leur séjour dans les déserts, Israël était dépendant de Dieu. Ça veut dire du don, de la manne et de la viande tout au long des périples. Il a suffi que Dieu parle et la faim du peuple a été apaisée. Et voilà le pain et la viande tombés du ciel au sens propre du terme. Vraiment, c'est un miracle. Un de nos profs du temps de l'école biblique paraphrasait un peu ce verset en disant « L'homme ne vit pas du pain de boulanger seulement, mais que l'homme vit aussi du pain qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'entendre ça? L'homme ne vit pas du pain de boulanger seulement, mais que l'homme vit aussi du pain qui sort de la bouche de Dieu. Il suffit que Dieu parle et le pain est tombé avec la viande. Et ce n'était pas du pain fictif, mais du vrai pain qu'ils ont mangé. Avec la marche dans le désert, c'est vrai, le peuple avait besoin de force et c'était au travers du pain venant de Dieu qu'ils avaient eu la force de faire face à toute cette marche. N'est-ce pas formidable? Maintenant, avec le verset cité par Jésus dans un autre contexte, eh bien, c'est notre âme qui a besoin de la parole de Dieu afin que nous puissions grandir dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Dans les moments forts de sa vie, dans le désert, Jésus était en parfaite communion, en pleine connexion avec le Père, tant nécessairement et important avant de commencer son ministère. En un mot, c'est des temps de prière. C'est ce qu'Annie nous a rappelé dimanche dernier, que la clé de la dépendance est dans la prière. Et il a dit, je cite ces quelques phrases qu'il a dit, « La prière est la voie royale pour l'humilité. La prière nous guérit de toute autosuffisance. La prière nous guérit de notre convoitise. La prière nous délivre des inquiétudes et nous garde dans la paix. Et enfin, la prière nous conduit à la gratitude envers Dieu. » Jésus, avant d'entrer dans son ministère, passait ce temps avec le Père. Et c'était fort comme moment. Jésus allait entrer dans son ministère, d'où ce temps de mise à l'écart pour s'y préparer. Il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Vraiment, c'était très fort. Quelle consécration, vraiment. Et c'était le cas aussi avec Moïse, par exemple, sur la montagne, selon Exode 24, 18. Ce temps était un moment fort où il était en communion avec le Père. La parole du Père était sa nourriture, ce qui l'a permis de tenir ferme. Mais comme Jésus est aussi humain, ben il eut faim. Seulement, il ne s'était pas laissé tenter par la ruse du diable, d'où sa réplique avec cette parole. « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Remarquez, mais c'est au moment crucial où la faim le tenaillait que le diable entre en jeu avec cette parole. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Voilà ce que propose le diable. Mais Jésus ne s'était pas laissé tomber dans le piège. Il est sorti victorieux par cette parole. C'est vrai, le temps de jeûne est parmi les moments où l'on entre en communion avec le Père, vraiment dans un moment intime. Mais attention à ce qui force la main de Dieu. On en a connu des gens un peu tristes comme situation. Nous connaissons des personnes qui avaient fait 40 jours de jeûne. Pour la première, le jeûne a entraîné sa mort. Et pour la seconde, il a failli laisser sa vie. C'était presque amaigri totalement. Donc nous devons faire attention, ne pas dire « je vais faire comme a fait Jésus, comme a fait Moïse », mais laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'exemple de cette dépendance et cela nous amène à l'histoire de la veuve avec le deuxième point, la veuve et ses deux fils. Comme annoncé plus haut, elle était dans une situation critique. Elle hérite une situation délicate qu'avait laissée son défunt mari. Selon la tradition, elle était la veuve d'Abdias, ça veut dire le grand chambellan d'Akab. Et cet homme craignait Dieu dans 1 Roi 18:3. Même en étant au service d'Akab, ça montre vraiment qu'il y a des gens vraiment fidèles à Dieu, même dans une situation dans l'autorité, dans le sphère un peu haute de l'État, eh bien, ils étaient fidèles à Dieu. Ceci dit, de son vivant, sa famille avait connu des jours meilleurs. Elle respirait l'atmosphère d'une cour et se nourrissait dans le giron de luxe. Mais voilà, la mort ne prévient pas. Et la voilà héritière d'une dette. Mais d'où vient cette dette? Le texte du 1 Roi 18 dit que lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait caché 100 prophètes, 50 par groupe de 50, donc de groupe, et les nourrissait avec du pain et de l'eau. Donc, pourvoir aux besoins de ces prophètes n'était pas chose facile. Pas un ou deux jours ou une semaine, mais tant que vivra Jézabel, ils ne seront jamais en paix. Même Élie en avait la peur de sa vie et s'est enfui loin de cette femme. Donc, au décès de son mari, la voilà endettée. Mais malgré cette situation délicate, elle ne s'était pas laissée abattre. Et dans son action, on voit que malgré son veuvage, son amour pour Dieu n'a pas changé. Elle n'a pas régné sans Dieu, mais elle dépendait toujours de Dieu dans sa vie. Alors j'aimerais souligner trois bonnes attitudes de cette femme pour signifier vraiment cette dépendance à l'Éternel. Premier point, quand la situation était là, elle va voir l'homme de Dieu. Qui d'entre nous n'a pas passé par une telle situation? Pas forcément financière, mais où nous nous trouvons devant une situation délicate, difficile. Un peu comme le témoignage de NMM, là. Ce n'était pas facile, mais il a fallu une dépendance totale à Dieu pour pouvoir marcher vraiment par la foi. En étant croyante, pas des bouts de lèvres, mais du fond de son cœur, elle se sentait appelée à aller vers Élisée, l'homme de Dieu. Ce qui sous-entend que lui aussi, Élisée, il dépendait de Dieu aussi. Donc il y avait cette confiance en elle à l'endroit de l'homme de Dieu, d'où son déplacement. Sans hésitation, Élisée l'avait accueillie et avec un cœur animé, plein d'amour, il avait eu pitié d'elle. Et là, elle informe Élisée de sa situation. Mais avant cela, elle introduit en citant le statut de son mari, que ce n'est pas n'importe qui. Et cela est une information utile aussi pour Élisée. La première question d'Élisée à elle témoignait vraiment d'une merveilleuse connaissance du cœur humain et de la meilleure façon de faire face à une personne en détresse. Que puis-je faire pour toi? N'est-ce pas merveilleux quand quelqu'un vient nous voir aussi et que nous lui demandons « Que puis-je faire pour toi tout d'abord ?» Ou bien nous, à notre place aussi, nous demandons à quelqu'un et il va nous dire « Que puis-je faire pour toi ?» Ça sous-entend déjà qu'un soulagement pour la personne d'entendre cela, qu'elle ne s'adresse pas à un mur, mais quelqu'un qui est attentif, qui est attentionné. Ah, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui ne me repousse pas. C'est ce qui me permettra à la personne, par la suite, de s'ouvrir davantage. Mais Élisée, au lieu de se porter volontaire pour le venir en aide immédiatement, comme la plupart des gens le feraient, où Élisée a peut-être un tiroir et puis va sortir quelques billets ou des pièces pour la dame, emporté par son élan irrésistible de compassion au récit de l'histoire de la douleur, comme un sage, un ami sage et judicieux. Non, il demande jusqu'où elle-même a le pouvoir de conjurer la menace de la calamité. Et c'est là qu'il enchaîne sa question. Qu'as-tu dans ta maison? Peut-être une autre personne aurait pu dire tout de suite, ah ben voilà, je peux te donner, puis... mais ça ne résout pas le problème. Mais Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu à la maison? En fait, pour Élisée, son aide à l'endroit de la femme doit être d'abord basée sur ce qu'elle a chez elle aussi. C'est comme Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main lorsqu'il allait l'envoyer en Égypte? Et c'est là toute la question. Va-t-elle dire la vérité? Peut-être avec le peu de choses qu'elle a, elle pourrait être amenée à mentir. Il n'y a rien à la maison. Est-ce à dire aussi qu'elle a dû déjà vendre toutes choses pour subvenir à leurs besoins? Peut-être même, mais avec la venue du créancier, qu'est-ce qu'elle peut vendre encore? Rien de plus. Donc elle n'a plus rien à la maison. Mais étant une craignante de Dieu, elle va dire la vérité à Élisée. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Voilà tout ce qui lui reste à la maison. Rien qu'un vase d'huile. Que peut faire cela face aux besoins? Si Élisée n'était pas un homme de Dieu, peut-être il riait intérieurement ou il avait les yeux grands ouverts en entendant cela. Mais c'est à cet instant précis, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il va aiguiller la femme. Elle va donner le conseil. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Est-ce que les oreilles de la femme a bien entendu? Va demander au dehors, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Humainement parlant, mais c'est ridicule comme idée face à la situation désespérante de cette femme. Mais Élisée continue et elle aussi n'a pas bronché. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Eh bien, il va falloir une foi énorme pour accomplir tout cela. Et la question maintenant, c'est va-t-elle obéir? Demander des vases ne va pas être facile. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ces vases? Sa situation l'a rendue folle. Alors, pour ne pas l'offusquer, les voisins lui donnaient quand même des vases vides. Même si l'ordre d'Élisée dépassait le raisonnement humain, elle a obéi la femme. Elle quitta Élisée sans murmure ni doute et fera ce qu'il a ordonné, peu importe le jugement des autres. Voilà la dépendance et la fidélité. Elle obéit à la lettre les paroles d'Élisée. ce qui va conduire à sa dépendance à un degré plus haut encore maintenant, devant, plus devant l'homme de Dieu, mais cette fois-ci devant le Dieu, l'Éternel. C'est le deuxième point. Donc elle se met face à face à Dieu maintenant, dans sa maison. Imaginez un petit peu leur petite maison, pleine de vases. Cela nous rappelait du temps où la Séhim avait reçu un conteneur d'habits et tout était stocké chez nous. Eh bien, nous vous assurons que notre salon était plein de cartons jusqu'au plafond. Incroyablement, on ne pouvait plus marcher. Et voilà la petite maison de cette femme, pleine de vases. Dans la prière, nous sommes dans un moment d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand on prie aussi, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 6. Dieu voit tout ce qui se passe dans ce moment intime. Et justement, c'est là dans le secret qu'allait se manifester le miracle pour cette famille, pour cette femme. Elle avait fait ce qu'on lui avait recommandé, c'est de rassembler des vases. Maintenant, il va falloir croire et obéir ce qu'avait dit Élisée. Pensez à l'immense contraste dans la maison. Des vases et des vases pleines. Et juste une petite fiole d'huile. Et cette petite quantité devait remplir toutes ces vases, selon ce qu'a dit l'homme de Dieu. Est-ce qu'il n'y aura pas une petite hésitation? Mais suite à l'obéissance et en même temps dépendance à Dieu dans le lieu secret, le miracle va se produire parce que la femme va obéir. Incroyable, mais vrai. Si elle avait rassemblé peu de vases, à cause de la honte peut-être, elle n'aurait eu que peu d'huile ou peut-être même rien du tout. Mais elle a rassemblé beaucoup, le maximum, selon l'ordre de Dieu. Et quand le dernier vase était rempli à l'instant même, l'huile s'arrêtait. Ça, c'est vraiment le miracle. Ils ont sûrement explosé de joie, la petite famille, et en même temps reconnaissante à Dieu pour son intervention miraculeuse, vraiment. Qui d'entre nous n'ont pas vu l'intervention de Dieu dans notre vie lors des moments d'intimité durant lesquels nous déversons à Dieu nos fardeaux, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, c'est toujours quelque chose de merveilleux. Et le témoignage qu'Anne vient de faire tout à l'heure en est la preuve, vraiment. Dieu n'a-t-il pas dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il est le Dieu, le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais voilà, que faire face à tout cela? C'est étonnant la réaction de la femme. C'est de retourner à l'homme de Dieu, tout d'abord dans le but d'être reconnaissante envers lui, mais aussi ce qu'il dira par la suite, ce qu'il dira pour la suite. Ce qui nous amène au dernier point maintenant. Elle va retourner vers l'homme de Dieu avec reconnaissance. Mais moi, je me suis dit, c'est une attitude louable, vraiment, ce qu'elle a fait. Elle n'était pas ingrate, mais reconnaissante à l'homme de Dieu, ce qui sous-entend aussi être reconnaissante à l'éternel Dieu. Émerveillée, elle a tenu à rapporter à l'homme de Dieu le miracle qui s'est produit dans sa maison. Elle débordait de joie sur ce qui vient de se passer et voulait lui faire part de l'intervention divine. Cette femme ne s'était pas contentée de dire « Mon problème est résolu, gloire à Dieu », puis ne donne plus de suite. Non. Elle a tenu à retourner vers l'homme de Dieu pour partager la bonne nouvelle, mais aussi apporter sa reconnaissance et, comme j'ai dit plus haut, attendre sa directive pour la suite, ce qu'il dira doit faire de tout cela. L'attitude de cette femme me fait penser au lépreux samaritain qui était guéri avec le neuf autres, mais il était le seul à revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu par sa guérison, selon Luc 17, 17 à 18. Paul recommande aussi aux Thessaloniciens, mais valable pour nous, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. La reconnaissance, mes chers amis, il ne faut jamais oublier dans notre vie de tous les jours. Pour terminer, je dirais simplement que tous à un moment donné de notre vie, nous passons par des épreuves de toutes sortes, mais exhortons-nous mutuellement à nous dépendre de Dieu. Que ce temps soit une réalité, pas un rite ou une routine, mais un moment fort qui nous permette vraiment de nous mettre devant le Seigneur et d'attendre tout de lui, parce que lui, il a dit qu'il va nous prendre soin de nous. Devant ces épreuves, passons du temps avec Dieu dans nos moments privilégiés, seuls avec lui, et en retour, il nous bénira. Assaisonnons ces moments seuls avec Dieu par des prières, des requêtes et des actions de grâce. 1 Timothée 2, 1. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.